tu donnes la possibilité aux gens de se mettre dans une énergie, et si l'énergie marche, c'est un moment de jeu collectif ou de réalité qui ressemble au documentaire, les choses se passent sous tes yeux. Il y a aussi un autre grand avantage à tourner en plan séquence, et ça c'est le réalisateur feignant qui parle, c'est que tu perds tellement de temps au montage à choisir le champ, contre-champ, etc., pour arriver à un truc qui est totalement artificiel, alors que des fois, si tu dis je tourne la séquence en plan séquence, une fois que tu as choisi ton plan séquence, tu perds pas trop de temps.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Una all to you. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire ?
Marcel Proust le faisait en littérature, échapper au temps par la longueur de la phrase, en multipliant les va-et-vient. C'est exactement pareil au cinéma, entamer un mouvement, celui de la caméra, sans ne jamais l'arrêter, l'interrompre par un point de montage, déjà présent en 1927 chez Murnau dans l'Aurore. Un homme traverse un champ pour retrouver sa maîtresse qu'il attend au clair de lune. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, toute la grammaire cinématographique était déjà là au début du XXe siècle, mais tout de même ce fameux plan séquence a évolué jusqu'à prouesse technique, le faire durer tout un film. Dernier exemple en date, 1917, de Sam Mendes. 1h59 en continu pour filmer le périple de deux jeunes soldats anglais traversant le territoire ennemi pour délivrer un message capital. Sam Mendes, Golden Globe, meilleur réalisateur, meilleur film, est notre premier invité. Pour expliquer et commenter cette technique et cette philosophie du plan séquence, un cinéaste et un chef opérateur. Bonjour Nicolas Boukreyev.
Bonjour.
Auteur déjà de 8 longs métrages de Va mourir à 3 jours et une vie. Bienvenue Jonathan Riquebourg.
Bonjour.
Directeur de la photo notamment de chez Razad et plus récemment L'Angle Mort. Et merci d'être là avec nous ce matin, 1917, sort mercredi prochain. Nous conclurons sur les sorties de ce mercredi avec entre autres une grande animation japonaise, un polar à la roumaine et un ovni à la française. Et dès maintenant, plongeons directement notre regard dans ce film, 1917.
Your orders are to get to the second at Kwasiya Wood, 1 mile southeast of the town of Akust. Deliver this to Colonel Mackenzie. It is a direct order to call off tomorrow morning's attack. If you don't, it will be a massacre. We will lose 2 battalions. 1,600 men, your brother among them. You think you can get there in time?
Yes, sir.
C'est son 8e film après notamment American Beauty, Les Noces Rebelles ou Skyfall. Sam Mendes réalise donc 1917 sur le périple, je le disais, de deux jeunes soldats anglais chargés donc en 1917 de traverser le territoire ennemi depuis les tranchées pour avertir un bataillon qu'ils sont sur le point de subir une attaque dévastatrice. Sinon, 1500 soldats devraient périr. Unité de temps, de lieu, d'action, comme au théâtre, celui des hostilités. Première question, Nicolas Boukreyev. Un sujet pareil, l'urgence, le danger, la guerre. C'était évident pour un tel sujet, une telle immersion, un plan séquence?
Évident, je ne sais pas. Intéressant, oui. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui ont envie qui n'ont pas connu du tout la guerre. C'est carrément, ils parlent de leurs grands-parents quand ils parlent des récits qu'ils ont eus dans leur enfance sur la guerre. Et c'est la même chose que Nolan avec Dunkerque, mais d'une façon complètement différente. Ouais. Ils essayent de retrouver un ressenti sur les caractères, sur les personnages, qui est un ressenti purement cinématographique. Qui n'est plus du tout Samuel Fuller voulait raconter ce qu'il avait vécu quand il faisait Big Red One, parce qu'il avait fait le débarquement et était remonté jusqu'au camp. Là, on est dans des cinéastes qui ont vu des films russes, on va dire, et ce travail sur le plan, sur le temps, et qui essayent maintenant de nous faire partager une émotion, une sensation et une idée de la guerre qui est assez sophistiquée. Moi, je trouve personnellement très passionnante et qui est totalement de l'ordre du cinéma, qui n'est plus du tout de l'ordre proto-documentaire.
Jonathan Riquebourg aussi, il y a aussi l'idée de traduire un sentiment d'urgence dans un plan séquence.
Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le plan séquence va nous emmener d'un point A à un point B, sans jamais se départir du suivi du personnage. Ce qui est beau, c'est que le film s'ouvre sur un arbre et on verra jusqu'où il va se terminer. Mais évidemment, il y a forcément un enjeu de là où le plan doit nous amener. Donc, évidemment, on est toujours assujetti à à la fois à l'urgence de la guerre elle-même et de l'urgence du plan qui accompagne en permanence ce personnage. Donc, on sait qu'on se décollera jamais non plus de lui. Donc, il y a aussi une forme d'intimité qui se propose à l'intérieur de ce plan.
Avant d'écouter Sam Mendes, on peut quand même dire que ce faux plan séquence, puisqu'il a été tourné en plusieurs fois, est quand même coupé en deux et assumé comme tel, Nicolas.
Oui, il y a deux plans séquences. Il y a une ellipse au milieu du film qu'on ne dévoilera pas, mais qui est une ellipse assumée, précise, qui fait que quand on va dire ce film est en un plan séquence, non, il est en deux plans séquences, puisqu'il y a une ellipse de temps très précise, et où un autre plan redémarre, et ça a du sens. C'est là que je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, Sam Mendes n'est pas victime de son concept. Il a décidé à un moment précis de faire une coupe. Cette coupe a beaucoup de sens et fait basculer le film grâce à son chef opérateur, auquel il faut rendre quand même très hommage, qui est Roger Deakins, qui est un des plus grands chefs opérateurs au monde, quand même, puisqu'il est celui des frères Cohen et aussi de Sam Mendes notamment. Et là, le film bascule en quelque chose qui est à la limite du fantastique. Donc, il y a quelque chose de très passionnant dans la façon dont ils font évoluer la sensation et le regard dans ce film qu'il pose sur les deux personnages.
Alors, nous avons rencontré Sam Mendes quand il est venu à Paris, avant donc de recevoir dimanche dernier par la presse étrangère à Hollywood ses deux Golden Globe meilleur film et réalisateur, en face quand même de Tarantino, de Parasite, de Scorsese, etc. Au-delà du sujet qui, par parenthèse, lui tient très à cœur en mémoire de son grand-père Alfred Mendes, d'ailleurs à qui le film est dédié, le cinéaste anglais revient avec nous sur les folles arcanes de ce méga plan séquence, aidé pour cela, vous le disiez, Nicolas Moukrieff, de Roger Deakins. Voici Sam Mendes avec Xavier Combes à la traduction.
Who's winning?
Us, I think. 2-on-1.
They got him.
Bonjour Sam.
Bonjour.
In a way, it's a survival movie. D'une certaine façon, 1917, c'est un survival. À tout moment, il est question de survivre.
Yes, that's very well put.
Oui, c'est très bien dit.
It's much about surviving.
Il est en effet question de survie.
It operates as much like a thriller.
Et ça fonctionne un petit peu comme un thriller, comme un film d'horreur, comme vous l'avez dit.
It's not a combat film.
C'est pas un film de combat. Du reste, il y a très peu de sang.
You know, asks you to experience.
C'est un film qui vous invite à vivre le temps exactement comme les personnages. Chaque instant qui se passe, chaque pas qu'ils prennent, et bien vous le vivez. Il s'agit de verrouiller le public chez les personnages.
In the same way as the characters. Comme vos personnages, vous ne pouvez pas reculer. Et j'imagine que ce processus vous a demandé des mois de répétition. Combien de mois d'ailleurs ?
Non, nous avons rehearsé pour 6 mois.
À vrai dire, on a répété pendant 6 mois, mais on n'a pas fait que répéter. Il nous a fallu répéter, mesurer les distances, puis construire le décor, puis à nouveau répéter, puis changer le décor, puis répéter à nouveau. Donc vous voyez, ce n'était pas simplement des répétitions. Si vous marchez le long d'une tranchée, il faut d'abord marcher, puis il faut mesurer la distance, savoir à quel moment il faut tourner à droite ou à gauche, puis il faut creuser les tranchées. Nous, on a creusé environ 1,5 km de tranchées. Ensuite, il faut apporter les personnages, les détails, les accessoires, et il faut recommencer. Donc on fait des allers-retours, et chaque élément renseigne l'autre. La caméra, les personnages qui interagissent. Donc c'est en une espèce de boucle. Autrement dit, on a travaillé pendant des mois et des mois avant de se lancer.
Est-ce que ça veut dire que les dialogues doivent être aussi longs que le parcours ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Ah oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. Et je remarque que vous avez autant de mal que moi à décrire cela. En réalité, le parcours doit être aussi long que la séquence. Et la séquence, elle, ne peut pas être plus longue que le parcours.
Parfois, vous devez changer les dialogues ou les situations.
Si on a bien répété, on ne va pas changer les choses le jour du tournage. Mais disons que l'on écrive une scène où l'on passe à travers un bois, on descend une pente, on passe à travers un verger, et puis on arrive dans une cour de ferme. C'est le cas dans le film, hein, d'ailleurs. Il faut mesurer la distance à travers le bois, descendre la pente, puis arriver dans la cour de ferme. Et il faut tout construire selon les exigences de la scène, de la séquence. Puis ensuite, il faut que ça ait l'air authentique. Et c'est ça qui est délicat. Il faut que ça ait l'air naturel. Il ne faut pas que ça ait l'air artificiel.
Did you cheat? Est-ce que vous avez triché sur les distances entre les lieux?
Oui, parfois on a compressé le temps. On voulait donner l'impression que la distance était plus longue qu'elle ne l'était en réalité, mais ce n'est pas vraiment de la tricherie. Tout le film, c'est une compression d'expérience, de temps, de lieu, mais on ne met jamais de côté le personnage. Donc on peut tricher d'une façon normale pour avancer de 200 ou 400 mètres.
We never did that.
How did you organize the comment vous avez géré les mouvements de caméra? Bon, je sais, c'est une grande question, mais comment ça s'est organisé entre une caméra sur un cap qui glisse, une caméra sur une épaule? Comment ça s'est fait, en fait?
It's too complicated to explain.
C'est un peu compliqué à expliquer, hein, mais il y avait plusieurs systèmes. Il y avait des caméras à la main, il y avait des steadicam, des câbles, des grues, des camions, des véhicules, des motos. Il fallait que ça se passe très bien, sans transition de l'un à l'autre. Mais je ne voulais pas que le public prenne conscience de l'existence de la caméra. La caméra doit s'effacer. Il ne faut pas que la caméra dise « Regardez-moi, moi je suis la caméra ». La caméra ne passe pas dans un trou de serrure. Elle ne suit pas la balle qui sort de l'arme à feu. Non. Il faut simplement raconter l'histoire des personnages. Et les possibilités sont infinies. Il y a une danse entre les caméras, les personnages, et le paysage en permanence. Parfois, il faut que la caméra soit subjective. Il faut que l'intimité, parfois, on veut qu'elle soit objective. Et on veut voir que le personnage est tout petit dans un paysage immense. Et ce mouvement, cet aller-retour, cette inspiration, expiration, c'est instinctif. Et c'est là qu'intervient l'expérience du réalisateur. Il faut comprendre ce que veut voir le public, cette respiration. Et il ne faut pas que ce soit répétitif non plus.
Were there more technical? Est-ce qu'il y a eu plus d'accidents techniques que d'erreurs de jeu de la part des acteurs?
It's about the same, I think. I mean, you know,
oh, je dirais que c'était équilibré.
Shot to be perfected technically.
Il a fallu peaufiner chaque scène et il faut s'assurer que le jeu des acteurs n'est pas au top avant qu'on ait allumé la caméra, bien entendu. Donc il faut tout mener de concert, en quelque sorte. Il y a eu quelques accidents heureux de la part des comédiens. Les animaux, les bébés, la lumière, la météo. Bon, on peut trébucher. Bon, il y a des accidents comme ça, mais tout ça, c'est humain et c'est normal. C'est ce qu'on veut d'ailleurs. C'est pas des robots, hein. Et on veut essayer de combiner ces éléments disparates. Il y a la précision technique avec la caméra qu'il faut associer à l'aspect naturel, à la spontanéité. Des comédiens.
Il ne
faut pas tout prévoir. Des petits accidents de temps en temps, c'est pas mal parce qu'on veut que les comédiens vivent le moment.
Il y a beaucoup d'intentions de jeu en fait dans une scène, de loin, de près, pleurer, crier. Et en même temps, les acteurs savent qu'ils sont toujours à l'image, ce qui est d'ailleurs un avantage.
Oui, et du reste, ils étaient préparés. Et au moment du tournage, ils avaient hâte de jouer. Ils étaient prêts. Et puis on y va, à grande échelle, si je puis dire. Mais la vérité émotionnelle et la précision technique, c'est difficile à combiner, particulièrement avec des personnages qui sont dans une situation extrême de survie. C'est ça le défi du film.
Vous étiez où sur le plateau?
Well, sometimes I was very far
parfois,
away from them
j'étais très loin des acteurs.
The camera would have
parce
seen me,
que
but also I needed
moi,
to see
il fallait que je voie l'ensemble du plan séquence sur un moniteur, parce que la séquence courait une longue distance. Donc parfois, enfin, plan séquence, quand je disais couper, ils ne m'entendaient pas, parce qu'ils étaient à plusieurs centaines de mètres. Mais de temps en temps, j'étais proche de la caméra, selon les exigences de la scène, et il fallait que je leur donne des instructions, donc ça changeait d'un instant à l'autre.
Et quand vous êtes loin, comment ils font pour entendre vos indications?
Parfois, les instructions, ils les ont, hein, on les laisse faire. Mais ça dépend. Mais vous savez, moi je suis un homme de théâtre à la base. On fait 8 semaines de répétition, puis on fait tout d'un coup dans une représentation. Il n'y a pas moyen de couper. C'est utile pour juger l'ensemble d'un récit sur 2h30 du point de vue du rythme, sans montage. C'est ce qu'on fait au théâtre.
Godard a dit « Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde et chaque point de montage est un mensonge. » D'où ma question, combien de mensonges dans 1917 ?
Non, il n'y a pas de mensonges dans mon film. Merci Godard de cette réflexion géniale.
Quel menteur ce Sam Mendes, il n'y a pas de point de montage dans 1917. Oui, moi j'ai relevé plusieurs choses dans ce qu'il dit, mais surtout l'idée de vérité émotionnelle et de précision technique, c'est ça le grand défi d'un film pareil.
Oui, complètement. C'est de faire ressentir, de nous faire ressentir ce que ressentent les caractères et d'être donc au plus proche d'eux, ce que un montage découpé peut parfaitement faire aussi. Mmh. Mais c'est le choix qu'il a fait lui de nous prendre par la main avec les personnages, ce qui crée une chorégraphie avec les acteurs. C'est ça qui est très intéressant. Ce qui est intéressant dans le plan séquence quand même, et c'est pour ça que les acteurs en général adorent les plans séquences, c'est que vous leur faites confiance. Vous leur donnez les clés, vous leur expliquez le plan, vous répétez avec eux, et ce n'est pas vous filmez, vous shootez, et puis vous verrez au montage. Vous prenez l'acteur par la main et l'équipe technique, et comme le disait Jonathan à l'instant, on va de point A à un point B, et à ce moment-là, vous laissez l'acteur prendre en place, prendre toute la place dans le plan, dans une sorte de chorégraphie avec le chef opérateur principalement, et donc les acteurs adorent ça, parce que si vous faites sur un film beaucoup de plans de ce type, ça leur permet de vraiment créer leur caractère. Ils savent que ce qui est tourné, c'est ce qui sera à l'écran.
Par exemple, dans votre cinéma.
Donc, ça leur donne confiance.
Par exemple, dans votre cinéma.
Moi, je pratique beaucoup de plans longs et plans séquences pour ces raisons-là. C'est-à-dire que l'acteur, à ce moment-là, sait que ce qu'il tourne, ça lui permet de créer vraiment son caractère. Puisque, voilà, il dit, en gros, il peut choisir entre la prise 7 ou la prise 8, mais je suis pas en train de faire 40 plans de prises différentes, et le montage peut complètement modifier, la perception de ce que je suis en train de créer.
Et pourquoi une scène plutôt qu'une autre?
Oui, pardon.
Pourquoi une scène plutôt qu'une autre en plan séquence?
Moi, j'en fais vraiment beaucoup comme ça. Pour plusieurs raisons aussi. Parce que quand on a pas forcément beaucoup de temps et beaucoup d'argent, ce qui est le cas de quasiment tous les films. Je veux dire, même les gros budgets, vous parlez avec le réalisateur, il vous dira toujours qu'il manque 20 millions de dollars. Bref. mais même quand on n'est pas dans ces hauteurs-là, l'avantage de ça, vous avez une demi-journée pour faire une séquence importante. Plutôt que de s'acharner à tourner 40 plans à 2000 à l'heure, qui seront des plans qui seront forcément un peu fades et qui correspondront à peu près à tout ce qu'on voit en découpage télévisuel, dans les séries notamment, je préfère embarquer l'équipe et les acteurs dans une réflexion sur un plan qui sera un plan ou deux pour la séquence, qui sera une énergie collective, qui sera un plan original qui n'appartiendra qu'à ce film et où tout le monde comprendra ce qu'il fait.
Mais avec un temps de préparation très long.
On reprend le temps de notre côté, puisqu'on a le temps de mettre en place le plan, de le répéter, de bien le préciser. Et voilà, donc, et ça fait une vraie aventure collective. Donc vous avez effectivement une captation d'un moment d'espace-temps où tout le monde est... Et ce qui est très intéressant dans le plan séquence, c'est que chacun, quand il fait ce plan, est dans sa partie, l'acteur joue son personnage, le gars du son prend le son, à la fin, quand vous dites couper, quand c'est la bonne prise, tout le monde le sait. Vous avez le chef opérateur qui lève le regard de sa caméra et qui dit « était bien celle-là hein. ». Le gars du son dit « moi celle-là était bien ». Et tout le monde a la sensation que ça y est, elle est dans la boîte, comme on dit. Donc, il y a quelque chose d'assez émouvant et de très collectif à faire des plans comme ça.
Jonathan Rigbaud, vous, en tant que chef opérateur, directeur de la photo, il y a une pression aussi. Vous vous souvenez, vous avez un plan en séquence en tête que vous avez tourné?
Oui, bien sûr. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a une vraie pression parce que du coup, on sent qu'il y aura qu'une prise, que ça ne va arriver qu'une seule fois. C'est ce que dit Nicolas, c'est qu'il y a une aventure collective, donc on peut pas entre guillemets rater puisqu'il y a qu'une seule bonne prise et que c'est celle-là qui va être montée, que c'est celle-là qui va être vue. Donc j'ai plusieurs exemples en tête. C'est vrai que dans Scheherazade, il y a un long zoom comme ça avec une bagarre dans une cuisine, avec un miroir qu'on devait ajuster. Donc en fait, c'est tout un tas de micro-ajustements à la fois techniques et en même temps au niveau des acteurs. qui permettent tout à coup d'accéder. Ce qui est beau là-dedans, c'est la pression que chacun des membres de l'équipe technique et artistique va ressentir. En fait, est à l'intérieur du plan. En fait, cette pression, oui. cette angoisse, et donc par rapport au film de Sam Mendes, la dimension de survie. Je trouve que cette idée de la survie et donc de la quelque part de la survie de l'équipe technique, elle est assez émouvante quelque part. Et je pense que d'une certaine manière, ça influence forcément le film. Quelque part, le plan séquence se rapproche un petit peu de la sculpture sur laquelle on pourrait pas reprendre. Donc en fait, on taille un bloc, on y va morceau par morceau, mais on peut pas revenir en arrière. Et donc il y a cette idée un peu belle que une fois que l'objet est atteint, un peu comme un documentaire aussi, c'est-à-dire qu'en fait les choses n'arrivent qu'une seule fois, et si on la rate, eh ben c'est trop tard. Donc par rapport aux accidents techniques dont on entend qu'il en parle un petit peu, oui. c'est émouvant aussi parce que quelque part, quand on est opérateur, on se dit bon là, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. Peut-être que comme il y a l'autre plan, ils pourront monter. Tant pis. Mais là, on peut pas se dire ça. Ouais. Donc ça, c'est assez émouvant aussi de se dire qu'il faut être parfait. Parfait au sens.
Oui, oui.
On est d'accord, hein, c'est pas la perfection absolue, mais ou en tout cas, il faut que quelque chose se passe. Parce que si rien ne se passe, c'est que le plan ne marche pas.
Robert Moncrieff opine du bonnet sur la comparaison avec le sculpteur.
Oui, tout à fait. C'est intéressant parce que c'est cette histoire d'aventure collective. Sur le convoyeur, j'avais des problèmes avec l'équipe son. L'équipe marchait vraiment très, très fort. C'était un film qui avait vraiment des conditions de tournage qui étaient un peu dures. Et donc, mais tout le monde était à fond. Les acteurs du Pantel en tête, évidemment. Et toute l'équipe technique était à fond. Et j'avais des gars du son qui n'étaient pas dans le chorus permanent. Il y avait toujours en retard avec eux, quelque chose qui allait pas, un fil qui dépassait, etc. Et il y a un plan séquence à un moment dans le film où il y a tous les caractères qui c'est dans une cantine, ils sont en train de faire un deuil, et puis finalement ils se bagarrent, et puis finalement, enfin c'est un plan assez complexe, c'est un long plan séquence pour le coup avec tous les acteurs qui sont là, plan très difficile. À un moment donné, on est sûr d'avoir la prise, tout le monde est content, mais j'ai cru voir passer un truc devant mon écran vidéo et je dis mais je crois qu'il y a une perche. Et effectivement, il y a une perche énorme qui passe dans le cadre. Et donc ça témoigne. Alors évidemment, je devrais pas être à la place du gars qui a la perche. Non, parce que vous avez 40 personnes qui le regardaient canard les champs. Parce que c'était la bonne prise, c'était aller dans le tempo exact, les acteurs, le cadre, tout était parfait. Et donc, on essaie de recommencer, et ça ne marche pas. À ce moment-là, tout se délite, on l'a fait. Donc, j'ai monté cette prise, et ce qui prouve que le plan séquence a une énergie collective bien plus importante que simplement le point de vue du metteur en scène, c'est que jusqu'à aujourd'hui, cette perche qui est énorme en cadre, qui
personne
n'en a parlé. Et elle n'est pas sur les trucs du net, là, il y a des gens qui adorent, voilà. Mais donc, ça prouve bien que l'énergie du plan l'emporte. Ouais. Et c'est pas que le point de vue du metteur en scène et son montage qui aurait forcément enlevé la perche si le plan avait été découpé en plusieurs plans.
Vous êtes d'accord tous les deux que un plan séquence réussi, c'est un plan dont on prend pas conscience, nous, spectateurs, en fait.
Tout à fait. Hein? Complètement.
Et donc, pareil pour le film de Sam Mendes, on le dit, d'accord, on dit c'est un plan séquence intégral, mais presque il faudrait même pas avoir l'information, il faudrait le vivre
tout à fait,
avec
parce
eux.
Parce qu'on l'oublie en regardant le film.
Mais oui.
Le plan séquence, c'est une pensée qui articule.
Oui.
Qui va effectivement d'un point A à un point B. Dans Les Affranchis, quand on voit Ray Liotta arriver devant une boîte où il y a plein de gens qui font la queue, il descend, il dit bonjour dans toutes les cuisines, il traverse les cuisines, il arrive dans la salle et on lui installe une table où tout devant de la scène, comme ça il peut frimer devant sa fiancée. Oui. C'est un plan qui a du sens. C'est-à-dire, ça y est, il est un affranchi, il a plus besoin de faire la queue, il connaît tout le monde et on l'installe alors qu'il arrive au dernier moment, on l'installe tout près de la scène.
Et presque Scorsese l'installe avec nous installe avec lui.
Exactement.
C'est une façon d'être.
C'est le moment où on
dedans.
Comprend tout ce qu'il est affranchi. Ouais. Et là, le plan séquence a du sens.
Ouais. Bon, je vais vous demander un exercice à tous les deux. On va commencer par vous, Nicolas, sur un film qui s'appelle La soif du mal d'Orson Welles. Alors, c'est un film qui s'ouvre sur un plan séquence. Je rappelle juste donc 1958, ce film. Ouais. À Los Robles, ville frontière entre les États-Unis et le Mexique, un notable meurt dans un attentat. C'est donc l'ouverture de ce film. Le plan dure 3 minutes et quelques. On va passer le son de ce plan et Nicolas, vous allez nous le décrire. Je sais que à la radio, c'est un peu compliqué,
mais c'est l'audio description.
C'est intéressant.
On y va. On lance le plan séquence.
Alors, ça commence par le gros plan d'une bombe avec un minuteur qui est réglé sur un temps qu'on a du mal à percevoir. Donc on sait qu'à partir de là, une bombe va exploser, on voit le tueur qui passe dans le cadre et on voit un couple un peu ivre très loin derrière des arcades. Le tueur va vite installer la bombe dans une voiture, c'est dans un plan très large, et s'enfuit. Arrive le couple qu'on avait vu pourtant tout très loin dans le cadre, qui arrive, ils sont visiblement un peu éméchés. La fille est un peu délurée, le gars est plus âgé qu'elle. Et là, la caméra monte très haut dans le ciel, donc on comprend à ce moment-là qu'on est sur une grue, et la voiture s'en va, et la caméra se met à voler. Donc là, Welles prend définitivement le point de vue de Deus Ex Machina et de Dieu. Et la voiture passe dans des quartiers, on est dans une ville avec des arches. la voiture s'arrête des pour laisser passer des passants. Il y a une ambiance de fête, on voit des gens, tout ça est un son de musique, il y a de la musique, les gens ont l'air de danser. Donc c'est une ville un peu étrange où les gens ont l'air de totalement en fiesta. Et puis la voiture, une fois que les passants sont passés, la voiture repart, s'arrête à nouveau pour un nouveau passage piéton. Il y a toujours cette musique en fond. C'est une ville qui a l'air assez assez étrange. On sent une ville de Riviera, quelque chose comme ça. Et arrive un autre couple dans l'ombre. Et là, d'un coup, la caméra se rapproche de ce couple, oublie la voiture avec la bombe. Et ce couple, c'est Charlton Heston, portant moustache, et Janet Leigh, 5 ans avant qu'elle se fasse massacrer sous la douche de Alfred Hitchcock. La voiture passe devant eux. On se dit, tiens, ça va peut-être exploser là. Non, ça n'explose pas. Et la voiture disparaît. Et on accompagne ce couple qui déambule très calmement dans cette ville de fête, qui passe devant une première voiture, qui est la voiture de la bombe, qui n'explose toujours pas. Puis là, le couple en question passe devant, en pleine rue, il y a quelqu'un qui est avec un troupeau de chèvres. Donc c'est vraiment une ville dont on a du mal à comprendre la nature. Et puis d'autres voitures passent, et derrière eux, la voiture avec la bombe est à peine à 5 mètres. Nous, évidemment, on est toujours dans l'idée que la bombe va exploser, ben oui. Donc ça crée un suspense énorme. Et d'un coup, la caméra, tout en accompagnant le couple et la voiture en arrière-champ, se rapproche d'une guérite et on comprend qu'on est à un poste frontière et qu'on est à la frontière mexicaine. Et Charlton Heston et Janet Leigh continuent de marcher avec la voiture cette fois qui est juste à côté d'eux, donc le suspense est total puisque si elle explose, elle détruit le casting principal. En même temps, on sait qu'il y a un minuteur. Et enfin, le couple arrive devant la partie américaine de la frontière. On comprend qu'on est à la frontière avec le Mexique. Charlton Heston, on comprend à ce moment-là qu'il est policier. C'est un policier mexicain. Il est avec Janet Leigh, qui, elle, est américaine. Et la voiture est juste à côté d'eux, avec cette bombe. Et là, le douanier s'intéresse au chauffeur de la voiture. Et la jeune fille délurée passe son temps à dire « Mais je ne comprends pas, j'ai ce tic-tac dans la tête, j'ai ce tic-tac dans la tête. » Et elle parle alors que Charlton Heston et Janet Leigh sont juste à côté. Donc ça nous rappelle la présence de la bombe. Donc le suspense continue. On se demande à quel moment la bombe va exploser. La voiture s'en va. Et Orson Welles nous montre avec sa caméra, lui passe la frontière sans problème. Donc ça prouve toujours qu'il est Dieu. Et là, on tombe, il y a une autre sorte de figurants qui sont bien habillés, c'est beaucoup plus sérieux, on n'est plus au Mexique, il n'y a plus de chèvres. Charlton Heston et Janet Leigh s'embrassent, et au moment où ils s'embrassent, on entend l'explosion, ça s'appelle un baiser explosif, et là on coupe le plan séquence pour tomber sur un zoom très rapide sur la voiture qui a explosé. Voilà à peu près le plan séquence d'Orson Welles.
Bravo, et pourquoi ça reste aussi historique et culte ?
Parce que c'est l'illustration du suspense en un seul plan, parce que personne n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui avec le numérique, on peut faire des plans séquences n'importe comment. Dans l'idiot Black Panther, vous avez des plans séquences incroyables faits en effets spéciaux qui sont très spectaculaires et parfois très beau.
Oui.
Mais je veux dire qu'à l'époque, faire cette chose-là était une chose qui était inédite. Et Orson Welles prouvait qu'il n'était pas que l'auteur qu'on pouvait imaginer, qu'il pouvait être aussi un grand cinéaste de suspense.
Mais comme vous dites, il se prend aussi pour Dieu. C'est-à-dire quand il lève sa caméra.
Il prend tous les points de vue. Il monte dans le ciel, il redescend. Orson Welles a toujours dominé tous ces sujets.
Oui.
Mais ce plan a fait école. Il a été cité dans The Player, il est cité de Robert Altman, il est cité dans Phantom of the Paradise de Palma. C'est un plan qui a marqué énormément son temps. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens étaient soufflés et toute la génération des cinéastes qui sont arrivés derrière ont souvent rendu hommage à ce plan. Hein.
C'est un plan qu'on peut voir sur Internet facilement.
C'est un plan qu'on peut voir sur Internet
facilement. Il faut voir le film dans son entier, mais on peut le voir.
En fait, il y avait cette phrase, je vais très vite, mais Hitchcock, vous savez, la bombe dans le gâteau, c'est Hitchcock expliquait ce qu'était le suspense en disant, voilà, vous faites une séquence d'anniversaire, et puis d'un coup, dans le gâteau, il y a une bombe et tout explose, vous avez une séquence très choc. Si maintenant, 10 minutes avant, vous montrez le cuistot mettre la bombe dans le gâteau, vous aurez 10 minutes de suspense. C'est l'illustration littérale de ça.
Ouais.
À partir du moment où on voit la bombe en gros plan et qu'elle est mise dans la voiture, toute la question du plan, et c'est là que c'est très intelligent comme plan séquence, c'est pas du tout juste une démonstration de savoir-faire, c'est que, à quel moment cette bombe va exploser, elle se rapproche des personnages principaux, elle s'en éloigne, et donc c'est totalement captivant. On le trouve en un clic sur Internet, ça vaut le coup de le regarder.
On trouve aussi en un clic sur Internet cette scène, ce plan séquence de Saul Kuba, Jonathan Rigbourg, vous allez nous commenter. Saul Kuba, 1964, Mikhaïl Kalatozov. On rappelle Saul Kuba, c'est pas la lente évolution de Cuba du régime de Batista jusqu'à la révolution castriste, avec une équipe technique composée principalement de Cubains et de Russes. On y va, on lance
le
son.
Donc, le film s'ouvre sur un saxophoniste et un guitariste, on est en contre-plongée, plutôt à l'épaule. Ce qui est beau, c'est que tout à coup le ciel s'ouvre derrière les musiciens, la caméra qui est redescendue remonte, puis se met à suivre un peu le saxophoniste. On découvre qu'on est alors dans une espèce de défilé avec des femmes en bikini qui sont observées par une bande de gens plutôt bourgeois, plutôt blancs, au milieu de la Havane. les jeunes femmes, on va tout à coup les suivre et puis s'arrêter un tout petit peu plus sur l'une d'entre elles. Celle-là va tout à coup nous amener à un commentateur. Je suis un petit peu en avance, mais tout derrière, on voit tout à coup tous les bâtiments, les buildings de la Havane moderne. Ce commentateur, en fait, qui donc décrit un peu les femmes, va nous amener sur une petite plateforme. Et cette plateforme nous permet de découvrir en arrière-plan une piscine qui domine la ville. Alors là, commence quelque chose d'un peu plus extraordinaire puisque la plateforme descend, donc on change d'étage. Sur notre gauche, la caméra panote et découvre en fait à nouveau des hommes blancs en train d'observer toutes ces femmes qui défilent devant eux. Donc les gens applaudissent. Hein. On est vraiment dans une espèce d'ambiance à la fois festive et en même temps un peu décadente hein, d'une certaine manière. Les hommes aux cigares, les femmes dénudées. La caméra arrive alors à l'étage de la piscine. Là, on a tout à coup des gens qui continuent d'applaudir. Et on va s'attarder un tout petit peu sur un serveur. Donc on comprend aussi hein, la dimension de l'alcool, de la fête. Voilà. On est toujours sur des gens un peu plus âgés que les femmes qui défilent. Et ce serveur nous amène à un vieil homme qui lui-même va apporter un verre à une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Et cette femme est en train d'observer la Havane. Donc, parce que le sujet du film, évidemment, c'est la question cubaine, la question du pays cubain. Cette femme récupère le verre d'alcool, boit tranquillement tout en observant la ville. Et puis la caméra, toujours à l'épaule, va l'accompagner et la suivre au milieu des gens qui sont assis. Et là, il y a un photographe qui prend en photo une jeune femme qui joue aux cartes. Et tranquillement, la caméra va s'attarder sur une femme qui décide d'aller dans la piscine. Donc elle enlève son chapeau. On est toujours sur une focale assez courte, donc qui nous permet de bien voir le décor et de suivre toujours ce personnage. Et là, la caméra va glisser à l'intérieur de la piscine. Donc on est passé de l'extérieur de la piscine à l'intérieur de la piscine. Donc là, elle glisse sur l'eau, donc on est au milieu des nageurs, plutôt des jeunes femmes à nouveau. Et là, la caméra passe sous l'eau avec tout à coup une femme, un homme qui nage devant nous. Et le son aussi se modifie, c'est-à-dire qu'on est passé d'un point de vue sonore extérieur à un point de vue sonore intérieur. Donc on a cette déformation de l'eau à l'intérieur de la piscine. Et le plan se coupe et le film en fait est une série comme ça de plans séquences. C'est uniquement des plans séquences qui en fait à chaque fois nous montrent un aspect de Cuba.
Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là par exemple, celui que vous venez de décrire?
Bah celui-là, c'est clairement une en fait on donc c'est plutôt au début du film et en fait c'est vraiment une critique de l'ère Batista avec du coup cette classe bourgeoise apparemment décadente qui surplombe la ville, relativement méprisante du corps féminin, méprisant aussi mépris de classe quoi clairement. Ce qui est intéressant dans le film, c'est la tentative de Kalatazov de saisir en fait la bascule de Cuba et le passage voilà, le film d'ailleurs s'appelle Soy Cuba, je suis Cuba,
oui.
Justement pour ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'à un moment donné, la caméra incarne en fait Cuba. Et ça, c'est aussi beau de cette tentative d'être uniquement en plan séquence pour essayer d'être une incarnation de l'âme d'un pays. Et je trouve que du coup, le plan séquence se justifie en cela d'être comme ça omniscient et de pouvoir aller partout, à la fois d'aller du ciel à l'eau, de la terre au ciel. Et c'est en soi très très beau.
Moi, celui qui me reste en tête, c'est la dernière scène de Profession Reporter de...
Bien sûr.
Qui est assez incroyable. Et je recommande aux auditeurs d'acheter le DVD parce qu'à l'intérieur, il y a un commentaire de Nicholson. Il y a un descriptif de la scène par Nicholson et un hommage ultra émouvant à son réalisateur Antonioni. C'est absolument extraordinaire. On se retrouve, mais on rappelle que 1917 de Sam Mendes sort mercredi prochain. Merci, vous restez là tous les deux, Nicolas Moukreyev.
Merci à vous.
Et ça passe vite, et Jonathan Rigbourg. On se retrouve après Baxter Dury, Slumlord.
Sleep in the daylight, leaning out of windows, some road laughing, no one's gone. fresh honey. I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. To say, just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.
Petit rajout, parce qu'on est en pleine conversation, c'est vrai, Nicolas, vous voulez dire quelque chose par rapport au plan séquence, c'est du cinéma.
Oui, non, c'est très important ça, oui. C'est que le plan séquence, c'est du cinéma.
Oui.
C'est-à-dire que dans les séries, à part dans True Detective où il y en a un magnifique,
oui.
Et True Detective est fait par un metteur en scène de cinéma, oui. Et qui retourne au cinéma, parce qu'il fait le prochain Bond, c'est vrai que quand vous prenez la liste des plans séquences, il y en a, sur le net, on peut facilement la trouver, il y a toujours un metteur en scène, il y a toujours un point de vue.
Ouais.
Voilà, donc c'est jamais des faiseurs, et ça c'est important de le dire, c'est pour ça que 1917, quoi qu'on en pense, c'est comme The Revenant, d'ailleurs c'est très proche de The Revenant par certains aspects, c'est du cinéma.
Ouais,
c'est ça vaut le coup de le voir au cinéma.
Et c'est pour ça que la presse de Hollywood l'a reconnu comme film, effectivement,
forcément,
comme film signé, quoi.
Voilà, c'est un film qu'il faut voir en salle, je veux dire, profondément.
Parce que super émouvant, pas uniquement par le jeu des comédiens, mais par les plans, il y a des plans qui sont à pleurer dans le film.
Oui, complètement, on est très emporté par le film, je trouve.
Les sorties de ce mercredi, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, c'est un film japonais d'animation, Laurent, de cet auteur qui avait signé déjà, qui était un triomphe d'ailleurs de Your Name en 2016. Là, cette fois, c'est l'histoire de Odaka, jeune lycéen qui fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Odaka est dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Ina. Donc, fable initiatique au gros message écologique.
Oui, on avait déjà beaucoup aimé Your Name. Alors, Shinkai, il fait partie de cette jeune génération qui est en train de gérer l'après Miyazaki, qui est pas un après Miyazaki d'ailleurs, parce que Miyazaki, contrairement à ce qu'il dit, continue de tourner. Mais bon, voilà. Mais il y a effectivement une relève maintenant qui est là, qui s'inscrit dans le dans la ligne claire de Miyazaki avec beaucoup de talent, beaucoup de d'allants. Manifestement, voilà, ils ont été bien formés et ils savent comment faire les choses. Alors c'est vrai que c'est une fable gentiment ou durement écolo, on va dire, avec quand même cette idée extraordinaire d'une pluie permanente sur Tokyo. Voilà, donc c'est quand même ça, c'est vraiment une idée visuelle formidable, et avec cette jeune fille qui peut tout d'un coup déclencher le soleil ou faire disparaître, donc ça aussi c'est quand même, ce sont des idées visuelles qui transcendent en quelque sorte ce qui ne pourrait être qu'une sorte de petite fable écolo, pas très intéressante, pas très passionnante. Non, il y a suffisamment d'apport visuel, suffisamment de discours cinématographique justement pour que le film transcende tout ça et atteigne vraiment un grand et beau point. On pourrait presque, dans une prochaine édition, le voir figurer dans un livre qui s'appelle 100 grands films pour les petits d'un certain Nicolas Bougrieff,
ouais,
ou chez Arte Édition. Je pense qu'il pourrait y figurer notablement. Voilà.
Les siffleurs du cinéaste roumain Corneliu Porumbuiu. Cristi, un inspecteur de police de Bucarest, corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute, embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera. Il doit apprendre vite le silbo, c'est une langue sifflée ancestrale. Et grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne se passera comme prévu. Le cinéaste est donc mis à jouer avec les codes du genre très différent, du film policier au film noir, en western, en passant par la comédie, avec des personnages qui jouent toujours un double jeu. Le film, lui, s'est un peu perdu dans la compétition cannoise très riche de 2019, Laurent. Mais sorti de ce contexte festivalier, c'est un bijou noir, satirique et très drôle.
Oui, même s'il faut quand même prévenir qu'on est très très loin de ce que fait Porumbuiu d'habitude et qu'on a... Et qu'on
c'est bien, il change de genre.
Mais oui, d'accord. Ouais. En rappelant 12h08 à l'est de Bucarest, le trésor policier adjectif, vraiment des choses qu'on a énormément aimées et qui ont symbolisé presque cette nouvelle vague roumaine. Alors là, c'est beaucoup plus... on va dire presque ironique, mais ironique sur une accumulation de citations. Vous l'avez dit, Gilda, mais aussi Antonioni, le Psychose d'Hitchcock, les Contes d'Hoffmann. Enfin bon, il n'arrête pas comme ça de surmultiplier les références. C'est brillant, on n'y comprend rien, mais ça se suit avec plaisir.
L'autre de... Celui-là s'appelait Les Siffleurs, pardon, de Porumbuiu.
Oui, c'est ça.
L'autre, un premier film signé Charlotte Dauphin. Marie est une jeune danseuse à l'Opéra de Paris. Après la mort brutale de son père le jour de son 30e anniversaire, elle décide d'arrêter sa pratique. Son amour pour Paul, un photographe qui a pris le dernier portrait de son père quelques minutes avant sa mort, va peu à peu éveiller en elle une force vitale qui va l'aider à revenir à une autre version d'elle-même. C'est un film ambitieux avec des questions fondamentales, le deuil, la mémoire, l'art, mais toutefois nébuleux et prétentieux, ai-je pu lire ici et là.
Alors Marie, l'héroïne dont vous parlez, elle est représentée dans le film sous deux actrices.
Oula.
Donc on songe immédiatement à Buñuel, cet obscur objet du désir, ce qui fait que la référence n'est pas un petit peu écrasante, d'autant plus que l'une est jouée par Astrid Bergès Frisbee et l'autre par Anouk Grimbert. Vous aurez noté, sans être méchant avec personne, qu'il y a une légère différence d'âge entre ces deux actrices et que du coup ça donne au scénario la nécessité en permanence de justifier cette différence que ne faisait pas et ce que n'avait pas à faire Buñuel. Et ça donne une narration d'une complexité folle, alors qu'effectivement le film ne nous dit fondamentalement pas grand-chose sur le travail de deuil, sur des choses comme ça. Et quand on découvre que ce premier film est explicitement autobiographique, on se dit que le film se perd les pieds dans l'esprit de sérieux, la multiplication des citations censées faire sens, et puis surtout une incapacité à prendre la distance nécessaire justement par rapport à ce réel vécu.
Nina, ça s'appelle donc l'autre de Charlotte Dauphin. J'étais déjà sur Nina Wu, de Midi Z, le chinois. Nina Wu a tout quitté pour s'installer à Taipei dans l'espoir de faire une carrière d'actrice, mais elle n'a tourné jusqu'alors que quelques publicités. Un jour, son agent lui propose le casting du rôle principal d'un film d'espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina se rend à l'audition. Un film en pleine actualité, notamment en ce moment le procès Weinstein. Alors oui, un film sur la brutalité et la violence du milieu du cinéma. Est-ce que doit faire une actrice pour réussir, doublée d'un thriller paranoïaque, les cauchemars fantasmés de l'actrice, et tout se mélange dans ce film, moi je trouve bancal, très répétitif, dans sa narration, et dont la froideur exclut toute empathie avec son héroïne.
Oui, mais c'est quand même une tentative intéressante, vous le disiez, dans le contexte actuel. Alors il faut dire par exemple que le rendez-vous avec le réalisateur se fait dans la chambre 1408, comme par hasard la chambre 1408, c'était le même numéro que celle de Weinstein en 2007 lorsqu'il produisait un film d'horreur et qu'il convoquait ses actrices dans cette chambre. Donc il y a une vraie volonté de l'actrice d'ailleurs elle-même, qui s'appelle Wu Keksi, qui a co-écrit le film, de dire quand même des choses sur ce qu'elle pense être sa réalité d'actrice dans le monde du cinéma actuel. Vous l'avez dit, c'est trop embrouillé, ça part trop dans beaucoup de directions, mais en même temps je trouve que le propos central et essentiel mérite d'être vu et d'être entendu.
Pourtant,
Nina Wu de Midi Z.
Midi Z qui avait bien commencé pour l'adieu de Lulu Wang. Lorsqu'ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tante aimée, est atteinte d'une maladie incurable, ses proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. C'est un film Kleenex apparemment, non ?
Ben, c'est un film américano-chinois, et ouais, pas seulement chinois, c'est-à-dire que ça se détache un peu de ce qu'on voit et de Cibou en ce moment, parce qu'on se dit, tiens, une famille chinoise face à la maladie de la gueule, mais on est dans les séjours des monts Fuchun, qu'on adore. Eh ben non, manque de peau, ce départ-là ne donne pas du tout le même film. C'est une jeune réalisatrice d'origine effectivement chinoise, Lulu Wang, et son film est sans portée, précisément parce que, comme elle le dit de façon très maligne à la fin du générique, c'est inspiré de mensonges réels. Alors oui, effectivement, si c'est ça la seule mention intéressante, eh bien là aussi, elle a du mal à se détacher de son réel, et c'est bien dommage.
Merveille à Montfermeil, premier film réalisé en solo par Jeanne Balibar. Joël et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle mairie de Montfermeil. Mais ils sont en instance de divorce, et toute l'équipe travaille, elle, à la mise en œuvre d'une nouvelle et très surprenante politique. C'est un film horripilant et intrigant à la fois, intrigant dans sa vision du monde politique, plus poétique que cynique, et à ses propositions de scénarios comme cette idée de journée à thème, la journée du Sarouel, la sieste pour tous, ou l'enseignement des maths en arabe pour régler la plupart des problèmes d'échecs scolaires, pourquoi pas, et au-delà de ce concert loufoque, l'idée de vivre ensemble, tourner avec les habitants de Montfermeil, que Balibar a préparé pendant un an dans des ateliers filmés, horripilant aussi parce que complètement surjoué par les comédiens professionnels du plateau, comme Béard, Ramzi Bedia, Mathieu Amalric et Balibar elle-même. Loufoque, il faudrait même inventer un autre mot, débridé, pas vraiment drôle et limite embarrassant.
Ouais, il ne faudrait pas que le Montfermeil et Victor Hugo deviennent l'alpha et l'oméga du cinéma français en banlieue, quand même. Je trouve ça un peu pauvre. Il va falloir quand même changer à la fois de direction et puis même peut-être de sujet. C'est drôle parce que moi, les merveilles, ça m'a fait penser à un film d'Alice Rohrwacher qu'on aime beaucoup ici, dont on a encore parlé récemment, qui était un film un peu pareil sur l'utopie, mais c'était l'utopie vue avec un ton de mélancolie nécessaire. Là, Balibar, elle nous fait le coup de l'utopie vue sur un ton comique qui fait pas rire.
On va un peu débordé. On va finir par Tommaso d'Abel Ferrara, mais comme on retrouve Willem Dafoe chez nous la semaine prochaine en invité principal, on en parlera avec lui, Tommaso, plus une spéciale Ferrara avec quatre de ses films qui ressortent. Des cadeaux pour nos invités, Laurent.
Oui, des cadeaux. Alors, d'abord, pour Nicolas Boukrieff, les deux premiers films du nouveau prodige du cinéma russe, Kantemir Balagov. C'est pas moi qui le dis, c'est l'intitulé du coffret. Je sais pas si vous connaissez ce cinéaste,
non,
Nicolas Boukrieff. Ah, alors on est très très heureux de vous le faire découvrir. C'est deux formidables portraits de femmes, et c'est vraiment, je pense, quelqu'un qui va compter parce que c'est un styliste et qui a des choses à dire, ce qui est un bon mélange pour un cinéaste intéressant.
Merci beaucoup.
Mais je vous en prie, nous en prions. C'est chez ARP. Et pour vous, Jonathan, ce Roubaix une lumière, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, dont le DVD vient de sortir au Pacte, c'est là aussi un superbe film où Desplechin s'évade de son univers habituel. Donc,
merci beaucoup.
On déborde énormément. 1917 à l'affiche des mercredi prochain de Sam Mendes. Merci beaucoup Nicolas Boukrieff d'être venu nous voir ce matin pour nous parler si passionnément du plan séquence. Merci
à
Jonathan
Ricbourg.
Oui. Générique de fin avec vous de plus, Sam Mendes, sur l'ouverture du Mépris. C'est un plan séquence de 1 minute 56 sur un travelling latéral qui se termine par la caméra de Raoul Coutard, tournée face caméra.
This program was inspired by cinema. It was filmed in sound. It's radio.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan.
Christine Masson and Laurent Delmas produced and presented, and I, Sam Mendes, was in it.
Et moi, Nicolas Boukrieff, j'y étais.
Et moi, Jonathan Riquebourg, j'y étais.